TechVox, le podcast qui parle de tech sans se prendre la tête.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais me permettre d'introduire le podcast parce que nous avons notre speaker principal qui est en vacances. Donc, une petite pensée pour lui et on espère que la neige est bonne. On va faire un épisode sur quelque chose qu'on ne développe pas forcément tous les jours, mais qu'on utilise souvent, c'est-à-dire les CLI, les Command Line Interpreter. Et on va vous présenter deux librairies pour en mettre en place, pour les développer. Et pour que vous puissiez créer l'outil de vos rêves à utiliser dans vos shells et dans vos CMD. Alors, on va commencer par Spectre Console, dont je vais vous parler juste après. Et ensuite, Baptiste et Julien vous parleront de Ink, une librairie aussi révolutionnaire qui vous donnera envie de ne faire que des CLI et d'arrêter de faire des applications web ou des applications desktop. Des CLI, des Command Line Interpreter, c'est vraiment un outil qu'on utilise beaucoup quand on est développeur, hein, à commencer par le plus utilisé, je dirais, c'est Git, Git Bash. Pour ma part, j'utilise Git en ligne de commande, hein. Bon, il y en a qui utilisent des IHM. Et une fois qu'on fait du DevOps, en fait, on est très vite confronté à l'utilisation de command line, parce que de toute façon, quand on fait du DevOps et qu'on met en place des pipelines de déploiement et de build, on est obligé d'écrire des lignes de commande pour faire des scripts, pour appeler des cloud providers ou peu importe. Et donc, il existe des librairies pour vous faciliter la tâche. J'avais envie de vous parler d'une librairie que j'ai rencontrée l'autre jour qui s'appelle Spectre.console. Elle vous permet en fait de rendre vos command line vraiment plus user-friendly, ce qui n'est vraiment pas le cas à la base, et de vous faciliter aussi l'interaction avec les utilisateurs pour récupérer de l'input. Vous avez différents composants que vous pouvez utiliser. Vous pouvez dessiner des tableaux, dessiner des barres de progression, dessiner aussi des explorateurs de fichiers. Par exemple, quand vous devez présenter un chemin ou un arbre de fichiers, vous pouvez le faire facilement. Il y a aussi une présentation des erreurs, un composant pour présenter les erreurs qui est directement intégré. Et ça vous permet surtout de mettre de la couleur aux bons endroits très facilement. C'est là que vous pouvez faire des strings où il va y avoir certaines parties du texte qui vont être en couleur et d'autres non, pour mettre en avant certaines choses. Vous pouvez faire des menus, avoir des choix multiples, et c'est vraiment, agréable à développer. Le tout en .NET, donc c'est le langage qu'on utilise le plus dans nos bureaux. Et donc je ne sais pas si vous l'avez déjà utilisé si vous avez des idées de CLI à implémenter.
Pour ma part, je ne l'ai pas utilisé, mais j'ai souvent réalisé des applications pour faire des migrations ou des modifications. Et en général, on fait tout passer en argument. Et c'est un peu fastidieux pour la personne qui veut l'utiliser, parce qu'il ne sait pas forcément tous les points d'entrée qu'il faut lui donner, comment ça fonctionne, etc. Et le fait d'avoir une UI en fait, super user-friendly qui lui dit « vas-y, donne-moi cette info, qu'est-ce que tu veux là, et ainsi de suite ». Pour le développeur, c'est sympa s'il fait quelque chose d'innovant, un peu qui change, etc. Mais surtout pour l'utilisateur, c'est vraiment... ça rajoute un peu une partie de fun, quoi. Une partie de « ok, je suis guidé et tout ». Je trouve ça super appréciable. Et le fait que ce soit en .NET, c'est gros plus pour moi.
Et comme dit Thomas, c'est vrai qu'on n'en fait pas souvent des CLI. Puis c'est pas très simple à utiliser pour l'utilisateur final, hein. Comme tu disais, avec les lignes de tous les arguments à passer qu'il faut connaître par cœur, il faut lire une doc à côté. Et moi, je suis assez impressionné par l'outil que tu viens de sortir, Alex, sur Spectre. C'est le nombre de composants qui peut exister dans une CLI, quoi. Des bar charts, des trees, tout ce qui est une question de grille, des canvas images, des calendriers. C'est quand même assez dingue de se dire que dans une CLI, on peut mettre tout ce type de composants-là, quoi. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir et l'habitude de faire, et c'est assez hallucinant, quoi.
Moi, en ce moment, je suis pas mal confronté avec l'équipe de production sur le projet sur lequel je travaille. Et c'est vrai que des outils comme ça te permet, comme tu l'as dit, Baptiste, hein, de faire des CLI ultra interactives qui font qu'au final, t'as presque plus besoin d'écrire de documentation associée à ta CLI. Là où avant, t'avais une CLI avec 15 paramètres possibles, etc. Là, tu peux carrément faire une CLI où t'as un pseudo parcours utilisateur au sein de ta CLI, quoi. Et en termes de temps de développement, bah, ça prend beaucoup moins de temps que de développer une interface avec une page web. Donc c'est vraiment pas mal pour ça.
Comme tu le dis, du coup, tu n'as pas de documentation à maintenir. Vu que tout est déjà embarqué dans le code, les entrées qui sont disponibles pour chaque paramètre, soit ils sont listés, soit ils sont déjà validés, soit tu as tout de suite l'erreur. Tu n'as pas besoin de contacter le gars qui l'a développé pour dire ouais, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là, etc. Donc, grosse plus-value. Je me pose la question, du coup, pourquoi on n'en fait pas plus souvent, du coup, ce genre d'outil?
Ouais, et en fait, moi je suis même à me demander si je vais pas me créer un projet qui fait une CLI avec un menu au début où on peut choisir ce qu'on veut faire. En fait, on peut très bien se faire une application console très rapidement avec ce genre d'outil et d'avoir un peu un couteau suisse pour, je sais pas, générer un fichier CSV, extraire des données d'un fichier JSON, parser des choses, faire des petits tests. Dans une seule solution, en fait, on peut très bien mettre ça en place. Ou même avoir un petit outil pour débugger des problèmes de production. Imaginez un exe que vous déployez sur un serveur juste pour aller vérifier les ports, des choses comme ça. Je ne veux pas faire de hacking, hein, mais on a souvent ce genre de problématique. C'est-à-dire que on déploie sur nos serveurs de développement où ça fonctionne, et on arrive en prod, ça ne marche pas. On n'a pas Internet et on n'a pas le droit forcément d'installer des choses. Ça permettrait éventuellement d'avoir un petit outil qu'on peut customiser pour vraiment aller débugger le problème qu'on a. Ça peut être un problème de proxy, un problème de certificat, un problème de droit. Et donc, ouais, ça donne envie d'y passer un peu plus de temps.
Ah, t'as mis le doigt sur quelque chose d'intéressant, c'est que ouais, il y a des environnements où t'as littéralement accès à rien et souvent tu dois passer par un intermédiaire pour réaliser ces opérations. Bah, plutôt qu'il fasse des lignes de commande à la main, tu lui donnes un outil clé en main de débogage, de diagnostic, etc. Ça peut être une grosse plus-value, quoi.
Et puis, enfin, je sais pas pour vous, mais quand j'essaye une nouvelle librairie, que ce soit en Node.js, etc., la première chose qui me fait plaisir, c'est quand je vois que la CLI est agréable et user-friendly. C'est-à-dire que quand on installe un truc comme Vite et que la première fois qu'on lance son serveur, déjà, il nous présente sur quel port il tourne, etc. Ça m'est arrivé de tester des technos, que ce soit en Rust ou des choses comme ça, ou quand je lançais le projet la première fois, bah, à part aller voir dans le fichier de conf où était le port pour tester l'application que je venais de développer, bah parfois il y a des choses qui sont agréables, c'est-à-dire que on vous aide un petit peu dans le développement, quoi. Et pour nos outils, ça peut être le cas. Hein. Je pense à pas mal de cas qui pourraient se présenter où on voudrait créer juste une petite commande que les utilisateurs pourraient réutiliser ou des librairies qui seraient réutilisables. Derrière, prendre en compte l'utilisateur, même si c'est un développeur, c'est important, je pense.
Mais je pense que enfin, le fait d'avoir vu cette librairie-là et puis celle après que je vais parler avec Julien là, je pense sincèrement que dans nos futurs projets, c'est des choses qu'on va, je pense, proposer, quoi. Maintenant qu'on sait que ça existe, que c'est assez facilement c'est assez facile à mettre en place, ça a l'air d'être assez simple en tout cas, je pense que c'est des choses qu'on va pouvoir proposer nous dans les futurs projets, quoi. C'est parce que je pense qu'il y a peut-être un manque de connaissances qu'on ne connaissait pas forcément, qu'on avait l'habitude de voir, parce que notamment je crois que c'est le Create React App qui fait un petit peu comme ça aussi, manière de liste déroulante, de sélection, de oui, non, de on coche, on décoche, etc. Où on savait pas trop ce qu'il y avait derrière, et maintenant c'est quand tu vois les librairies qui existent, ben pourquoi pas, quoi.
Moi, ce qui me vient en tête, c'est surtout quand on fait une API. En fait, ton API démarre, ok, t'as tous tes logs qui commencent à cracher. Sauf qu'avant que d'avoir tous tes logs, tu pourrais très bien print du coup ton tableau en disant, ok, tout ce que je vais loguer, ça va être là. Je vais attaquer cette base de données. Le truc, il est configuré comme ça. Par exemple, j'ai un serveur de mail, j'utilise ça, etc. Et du coup, avoir rapidement toutes ces informations à la personne qui a démarré l'application, surtout quand on est on-premise. On ne sait pas trop ce qui se passe, est-ce que le flux vers ce système il est bien ouvert ou pas, etc. Que tu es tout de suite, en fait, par exemple, mail check, tu printes de tous tes services et tout. Ça pourrait être génial.
En termes d'implémentation, là, je regardais un petit peu la doc, je vois que ça utilise, déjà c'est assez vieux parce que Spectre aujourd'hui c'est Spectre Console, mais il y a 4 ans ça s'appelait Spectre CLI, donc déjà la libre est déjà un peu éprouvée, ce qui explique peut-être le nombre de composants qu'il y a dedans. Tu peux faire du rendu dynamique, c'est-à-dire que des portions de ton UI qui est affichée dans la console sont refresh, donc ça va quand même assez loin. T'as même possibilité de tester avec des intégrations avec des librairies comme Verify. Donc ouais, en fait c'est vraiment une application quoi, à part entière. On n'est plus sur une simple CLI.
Ouais, et alors cela va nous amener à la deuxième librairie dont on souhaitait vous parler aujourd'hui. Donc je vais vous laisser en parler, mais on a déjà évoqué le nom de React. Donc ouais, ça va faire un petit peu le lien vers la deuxième.
Exactement. On aime bien le .NET, mais on aime aussi le React. Donc cette deuxième librairie qui s'appelle Inc. Lui va s'appuyer sur le système de React, donc le système de composants de React, pour créer des CLI, donc des interfaces pour les lignes de commande. Donc ça veut dire, quand on dit utiliser le système de React, c'est utiliser le système de composants, la gestion des states, toute une notion de hook aussi qui intervient, qu'on va pouvoir donc utiliser pour construire sa CLI. C'est un outil qui est assez réputé entre guillemets, parce que c'est quand même utilisé par GitHub Copilot CLI. Il y a la Terraform Cloud Development Kit et le New York Times aussi. Donc c'est quand même aussi des grands noms qui l'utilisent aujourd'hui. Et donc ça fait exactement ce qu'on vient de dire un petit peu avec ce qu'Alexandre nous a présenté avec Spectre, sauf que là c'est la partie React. Donc bah, pour ceux qui ont l'habitude de faire du front, je pense que c'est un autre outil qui est assez sympa à utiliser pour ces personnes-là, quoi. Je sais que toi, Julien, tu as pu le tester un petit peu, toi, de ton côté, donc tu vas pouvoir en parler un petit peu plus en termes de développement pur. Moi, j'ai fait juste un petit Hello World assez classique et j'ai beaucoup, beaucoup apprécié parce qu'on retrouve vraiment le système de React. Mais je sais que toi, Julien, tu as été un petit peu plus loin, donc je vais te laisser poursuivre là-dessus.
Comme tu l'as dit, Baptiste, moi je suis tombé amoureux de la librairie. J'avais vraiment l'impression de créer une application en React en fait. Moi je me suis pris à l'exercice d'essayer de faire un jeu de morpion en CLI. Et donc ça me permettait de faire d'utiliser tous les différents composants qui sont cités dans la librairie. Donc avec des parties dynamiques, des parties statiques. Et un tic-tac-toe complet, c'est-à-dire en gros on déclare des joueurs, on commence sa partie, on a moyen de faire une game, deux games, trois games, faire des best-of 3, best-of 4, avoir un golden score. Donc je me suis amusé à faire cette petite application et enfin en fait, à partir du moment où tu sais te servir de React, t'es vraiment pas perdu avec cette librairie et c'est ça que je trouve un peu magique.
Et il y a déjà des librairies qui étendent la librairie de base.
C'est ça. Moi, je suis resté en mode vanille. Je suis resté avec les composants de base de Inc. Mais bah, du fait que d'autres librairies plus connues, type GitHub Copilot, Terraform, tu en parlais, Baptiste, l'a utilisé, il y a eu développement de composants au-dessus, en fait, qui utilisent ces composants de base pour pouvoir faciliter le développement de CLI plus développés. Et quelque chose que je voulais rajouter, c'est que effectivement, Inc, en fin de compte, c'est un renderer de React, ça permet d'utiliser React pour développer sa CLI. Et derrière, ça utilise Yoga. Yoga qui est une librairie qui permet de faire le rendu flex dans du terminal. Donc en gros, lui, il fait un assemblage de sauts de ligne et d'espace. Et toi, côté code, tu utilises des propriétés CSS classiques.
Parce que en fait, c'est compatible avec du CSS dans ton CLI.
C'est ça. En fait, tu développes vraiment un composant React, donc tu vas faire un, je sais pas moi, un direction colonne, un flex start, un flex end, et derrière, lui, au moment où il fait le rendu de ton composant, il convertit ses propriétés CSS en des sauts de ligne et des espaces pour que ça s'affiche bien dans ton terminal.
Du coup, tu te retrouves un peu avec le même fonctionnement que React Native, où tu as des propriétés CSS donc que tu peux trouver en commun avec le web, mais d'autres qui sont propres pour l'utilisation sur une CLI.
Exactement, ouais, c'est ça.
Et du coup, sur la lib de base, donc tu as 7 composants par défaut, qui sont des composants, on va dire, basiques. Et sur Inc. UI, tu te retrouves avec une quinzaine ou une vingtaine de nouveaux composants déjà préimplémentés, qui te permettent de te faciliter encore plus la vie pour tout ce qui est rendu. Et notamment, ce que j'apprécie, je suis tombé sur la progress bar, je la trouve super belle. Je sais pas ce que vous en pensez.
Ah bah, on vous invitera à aller la voir dans ce cas. On mettra les liens de toute façon dans la description du podcast. Moi, ça me faisait penser, est-ce que vous pensez qu'ils vont l'intégrer dans React Strict DOM, le projet de Facebook d'unifier React Native et React? Bon, j'ai des doutes quand même.
Je disais, ce serait vraiment un langage pour les dominer tous là. S'ils vont même jusqu'à combiner la CLI au mobile et au desktop et au web, Là, c'est... Mais ce sera un bon move en soi.
Après, j'ai du mal à imaginer comment ils combinent les trois. Comment tu aurais un besoin qui puisse s'appliquer côté web, côté mobile et côté bash? Ça me semble compliqué.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Après, dans React Strict DOM, il n'y a pas le style, justement, c'est juste la logique des composants. C'est-à-dire que tu fais. Donc, vu que sur React Native et sur React HTML, en gros, ce n'est pas les mêmes propriétés, etc. Le style est en dehors. Donc, tu peux faire des librairies qui vont décrire une logique. Donc, après, j'imagine que ce sera facilement intégrable, mais l'intérêt, j'en suis pas convaincu. Ce qui est quand même impressionnant, moi, je trouve, avec Ink, c'est que ils ont, enfin, ça garde la notion de réactivité. C'est-à-dire que tu peux créer un use state, mettre à jour ton state, et ça met à jour ton IHM. Donc, en fait, pour des développeurs qui viennent du front et qui ont envie de se mettre à faire des CLI, c'est quand même très pratique parce que quand tu fais du React depuis 5 ans et que t'as pas touché à une autre techno, t'es un peu, tu réapprends un peu la vie quand tu perds le use state, le use effect, etc. Donc c'est vraiment un plus.
Et alors, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, mais dans une CLI, vous allez me dire, bah, comment tu fais pour débugger? Et ils ont fait exactement ce que vous pensez. Ils ont intégré React DevTool, ils le font fonctionner pour que tu puisses débugger tes composants, même qui tournent dans ta CLI.
Ça veut dire que tu les vois dans Chrome?
C'est ça, en fait, ça t'ouvre une page Chrome à côté, comme si tu lançais ton web, et tu vois l'interaction dans tes composants. Et ça, franchement, c'est vraiment bluffant.
Et j'ai une petite question. Est-ce que tu peux faire du fetch pour appeler une API ou autre
Oui.
à l'intérieur?
Ouais, moi j'ai vu un petit tuto d'une personne qui a récupéré les données des boursières, je crois, sur les dernières 24 heures et autres, qui a utilisé Axios même pour récupérer ces datas et les afficher à l'écran en mode dynamique avec un petit refresh dans un petit tableau, quoi. Donc ouais, tu peux tout à fait faire ça. C'est pour ça que c'est assez impressionnant et je pense vraiment que c'est des outils qu'on va pouvoir pousser parce que je pense qu'on peut aller quand même assez loin, quoi. Enfin, c'est juste imaginer d'embarquer un petit toolkit avec l'application à côté pour un utilisateur sur le serveur en direct et lui donner plein de possibilités, enfin plein d'actions à réaliser. Je trouve ça vraiment intéressant, quoi. Vraiment, vraiment intéressant, hein, tous ces systèmes-là, là.
Et du coup, après Fetch, mon autre question, c'est, t'as un équivalent local storage pour stocker, par exemple, si t'as un token ou des choses comme ça? Ou c'est à toi d'enregistrer dans un fichier et de venir relire?
Bah, à la fin, c'est un exec qui tourne, j'imagine. Vu que c'est une CLI, fin, ça dépend sur quel OS tu es, mais t'es pas dans un navigateur. C'est que quand tu es dans le DevTool que tu es dans un navigateur. Donc, tu as accès à la mémoire du processus et aux fichiers locaux, en fait. Donc, tu peux écrire dans les fichiers locaux, je pense. T'as pas tout ce qui est local storage, DB storage, etc. C'est vraiment pas dans un browser. On parle de React qui s'exécute dans une commande dans une commande shell.
C'est ça, et c'est pour ça que tu vois enfin, si vous allez sur la page GitHub du projet, vous verrez que les hooks qui sont disponibles par défaut, ils sont vraiment orientés CLI. Donc vous n'avez pas le local storage, vous allez avoir par exemple un use input qui derrière s'amuse à gérer le placement du curseur dans votre terminal pour pouvoir avoir un prompt en fait. Ça utilise React, mais il faut quand même pas oublier que derrière ça s'exécute dans un terminal, donc il y a des choses qui sont pas possibles, ouais.
Ok, eh ben merci beaucoup pour toutes ces bonnes idées et d'outils et j'espère que ça vous donnera envie de créer vos propres outils et d'aller explorer les bashes et les commandes pour faire travailler votre créativité. Voilà, merci beaucoup et puis à la prochaine fois, on espère que Mathieu nous reviendra plein de couleurs. Au revoir.